VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 13 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, le bilan de la récente attaque de Chénégodard a été revu à la hausse.
Et rencontre aujourd'hui à Pau, en France, entre le président Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel.
Au Mali, accord entre deux organisations pour restaurer la sécurité dans et autour de la ville de Ménaka, dans le centre du pays.
En Guinée, le gouvernement met en garde l'opposition qui appelle à une mobilisation massive à partir de ce lundi.
Accord de cessez-le-feu en Libye entre le gouvernement de Fayez al-Sarraj et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen.
En République démocratique du Congo, l'armée reconnaît la perte de 30 militaires dans sa dernière offensive contre les ADF dans l'Est du pays.
Les États-Unis ont condamné hier une nouvelle attaque à la roquette contre une base en Irak.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Nouveau bilan au Niger de l'attaque du 9 janvier contre la position militaire de Chénégodard, près du Mali. On compte désormais 89 soldats tués au lieu des 25 annoncés précédemment, selon le gouvernement qui a décrété un deuil national de 3 jours. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le gouvernement nigérien aura donc mis presque 48 heures pour confirmer une information qui a fait le tour de la toile depuis que des parents de victimes partis au carré des martyrs pour les obsèques des militaires décédés le 9 janvier dernier à Chénégodard ont indiqué avoir dénombré 89 corps au lieu des 25 annoncés dans le premier bilan.
Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ami, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. Cette douloureuse...
Le ministre porte-parole du gouvernement annonce également un deuil de 72 heures à compter de ce lundi, date prévue pour la rencontre entre le président Emmanuel Macron et les 5 chefs d'État du G5 Sahel dans la ville française de Pau, une rencontre sur la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Ici à Niamey, beaucoup de citoyens se demandent si après un tel drame, le président Issoufou doit se rendre à cette rencontre.
Que Dieu bénisse le Niger.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, deux organisations armées ont signé hier un accord pour tenter de restaurer la sécurité à Ménaka et autour de cette ville. Située dans le centre du pays, Ménaka est devenue un foyer de violences meurtrières en tout genre. Eric Manerakiza.
La coordination des mouvements de la Zawad CMA et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger conviennent de la cessation totale et immédiate de tout acte hostile et de la protection des personnes et de leurs biens dans les zones sous leur contrôle. Elles s'interdisent toute forme de violence et d'extorsion de biens en raison de l'appartenance politique ou ethnique et s'entendent pour contrôler la circulation des armes, instaurer des patrouilles mixtes et créer ou rouvrir des postes de contrôle. Elles conviennent de traduire en justice les criminels, de remettre ceux issus de leur rang et de mettre en place un organisme de justice incluant les mécanismes traditionnels de gestion des conflits et s'engage à œuvrer au retour des nombreuses personnes déplacées par le conflit et à celui des ONG dont elles assureraient la sécurité. La CMA est une alliance à dominante Touareg d'anciens groupes rebelles. La plateforme est composée de groupes armés pro-gouvernementaux. Toutes deux sont signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Ménaka et sa région font partie de ces vastes zones qui échappent largement ou entièrement au contrôle d'un pouvoir central affaibli dans un pays en proie à la guerre depuis 2012. Les violences y sont multiformes, djihadistes, intercommunautaires ou crapuleuses, auxquelles s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. Malgré la crise humanitaire qui sévit dans le pays, les ONG y ont une nouvelle fois cessé leurs activités en décembre à la suite d'un énième braquage.
En Guinée, le gouvernement a adressé une vigoureuse mise en garde à l'opposition qui appelle à une mobilisation massive à partir d'aujourd'hui pour faire barrage au projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Irénée Herman Ungbo.
Le Front national de défense de la Constitution FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation, a appelé à partir d'aujourd'hui à une mobilisation massive et illimitée qui fait craindre de nouvelles violences. Le FNDC proclame le caractère pacifique de son action, mais dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, le gouvernement accuse une partie des leaders de l'opposition de chercher à plonger la Guinée dans le désordre. Depuis mi-octobre, le FNDC a fait descendre dans la rue à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de Guinéens. Cette contestation, plusieurs fois durement réprimée, a déjà causé la mort d'au moins 20 civils et un gendarme. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'usage excessif de la force, des arrestations arbitraires et l'impunité des forces de sécurité. Avec des législatives prévues en février, une présidentielle et peut-être un référendum, la communauté internationale redoute l'escalade dans un pays à l'histoire tourmentée, coutumier des manifestations et des répressions brutales.
En Gambie, des milliers de personnes ont défilé hier près de Banjul en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow. Il y a moins de 2 mois, des milliers d'autres Gambiens étaient descendus dans la rue pour réclamer que le président Barrow tienne son engagement de 2016 et quitte le pouvoir après 3 ans. À noter que les partisans de l'ex-dictateur Yahya Jammeh comptent de leur côté manifester le 16 pour son retour d'exil. Et les partisans d'un départ de M. Barrow entendent faire de même quelques jours après.
En République démocratique du Congo, l'armée a reconnu la perte de 30 militaires dans sa dernière offensive contre les forces démocratiques alliées. Les ADF sèment la terreur dans l'est du pays depuis des années. De nouveau, Eric Manirakidza.
L'armée congolaise affirme avoir conquis jeudi le QG des ADF à Madina, dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le major Mark Hazukai, son porte-parole dans la région, a aussi reconnu 70 blessés. Du côté de l'ennemi, 40 ADF ont été neutralisés, dont 5 leaders, a-t-il poursuivi. Des armes ont également été récupérées, selon la même source qui qualifie les ADF d'intégristes islamistes. Près de 150 civils ont été tués en émoi dans des représailles des ADF sur les populations dans le territoire de Beni. L'armée congolaise arrive petit à petit vers Mbao Kamango, un des fiefs des ADF au nord de Beni, vers l'Ouganda, a ajouté le porte-parole militaire. L'axe Mbao-Kamango est au cœur d'une zone appelée le Triangle de la Mort en raison des exactions des ADF. Des habitants de Beni avaient saccagé fin novembre une base civile de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO en accusant les casques bleus d'inaction face aux violences des ADF. Les autorités congolaises et la MONUSCO avaient par la suite annoncé des opérations conjointes. Début 2019, l'État islamique a revendiqué quelques-unes de leurs attaques.
Un cessez-le-feu à l'initiative d'Ankara et de Moscou est entré en vigueur hier en Libye après plus de 9 mois de combats aux portes de sa capitale Tripoli. Cette crise a suscité la crainte d'une internationalisation accrue du conflit, Jean-Roger Bion.
L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril sans succès de s'emparer de Tripoli, a proclamé ce cessez-le-feu peu avant son entrée en vigueur prévue à minuit. Son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale GNA basé à Tripoli, a annoncé quelques heures plus tard qu'il acceptait lui aussi une cessation des hostilités, tout en soulignant le droit légitime de ses forces de riposter à toute attaque. La mission de l'ONU et la Ligue arabe se sont félicitées de ces annonces, appelant les deux camps à respecter le cessez-le-feu et à relancer le processus politique. Dimanche, Ankara a estimé que les deux parties s'efforçaient de respecter la trêve, évoquant une situation calme dans un communiqué du ministère de la Défense. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu intervient après un intense ballet diplomatique mené par la Turquie et la Russie, devenus des acteurs clés. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine avaient pris l'initiative mercredi d'appeler les deux camps rivaux à cesser les hostilités.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
4 militaires irakiens ont été blessés dans une attaque à la roquette contre une base aérienne située à quelques 80 km au nord de Bagdad, a annoncé hier l'armée irakienne. Au Pentagone, ici à Washington, des officiels ont confirmé qu'il n'y avait pas de force américaine sur cette base. Et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est dit indigné par une telle attaque et a demandé au gouvernement irakien de tenir responsable quiconque est derrière cet acte qui intervient dans un climat très tendu entre l'Iran et les États-Unis.
Ici aux États-Unis, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a assuré dans une interview disposer d'assez de preuves pour destituer le président Donald Trump à la veille d'une semaine cruciale dans la perspective de l'ouverture au Sénat du procès du président des États-Unis. M. Trump a exprimé son irritation, écrivant dans un tweet « Pourquoi devrais-je avoir le stigmate de l'impeachment collé à mon nom alors que je n'ai rien fait de mal ?»
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Cameroun, les pisciculteurs recevront 300 000 alevins de la Caisse de développement de la pêche maritime pour booster la production aquacole en 2020. Afin de réaliser ces objectifs, cette structure étatique s'est dotée d'un budget de près d'un milliard de francs CFA. Le Cameroun se bat pour limiter les importations de poissons congelés qui contribuent à plomber sa balance commerciale. En 2018, les importations de ces poissons ont coûté plus de 154 milliards de francs CFA. Le Soudan autorise les sociétés minières privées à acheter et à exporter 70% de leur production d'or à condition de déposer les recettes dans les banques locales. Les sociétés doivent également vendre toute devise étrangère qu'elles gagneront directement à la Banque centrale au taux de change officiel, sauf si la devise est utilisée pour leurs activités minières. Le but de la réforme est de réprimer la contrebande, d'attirer les devises étrangères et de générer des revenus supplémentaires qui aideront le gouvernement à faire face aux problèmes économiques. Pour finir, le Kenya a inauguré à Kiunga sa première usine de dessalement de l'eau fonctionnant au solaire. Selon l'agence Ecofin, l'infrastructure produit 50 kW d'électricité grâce à sa mini-centrale solaire intégrée qui lui permet de tourner 24 heures par jour. Elle peut ainsi produire assez d'eau potable pour 25 000 personnes chaque jour pour 20 ans au moins. La localité desservie est en proie à une sécheresse sévère depuis plusieurs années, rendant difficile l'accès de ses 3 500 habitants à une eau potable.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Football, pour commencer avec la 4e journée de la Ligue africaine des champions, les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale.
Oui, il s'agit des Congolais du TP Mazembe et des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Corbeaux de Lubumbashi. Vainqueurs de 1 des Angolais de Primeiro do Agosto, totalisent 10 points dans le groupe A, une avance décisive de 8 points sur le 3e Zesco United battu 2-0 par Zamalek. 10 points également dans le groupe C pour le Mamelodi Sundowns, vainqueur des Algériens de l'USMA 2-0. Les Sud-Africains sont en cas grâce au match nul du Wydad de Casablanca sur la pelouse des Angolais de Petro Atlético.
Élisée, l'Espérance de Tunis n'aura besoin que d'un match nul la prochaine journée pour valider sa qualification en quart de finale.
Ceci grâce à sa victoire 2-0 à Kinshasa contre l'ASV Club. Le double tenant du titre est en tête du groupe D devant le Raja de Casablanca, auteur d'un nul 0-0 face aux Algériens de la JS Kabylie. Et puis, dans le groupe B, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, Vitorio Soudan face à Al Hilal 2-1, prennent la tête avec 9 points devant les Égyptiens d'Al Ahly qui n'ont pu faire que match nul au Zimbabwe face à Platinum 1-1.
Quatrième journée également en Coupe de la CAF, on connaît le premier qualifié.
Et c'est Pyramide FC, le club égyptien vainqueur de son 4e match de rang 2-0 contre son compatriote Al Masri, a validé son billet pour les quarts de finale dans ce groupe A. Enugu Rangers et FC Nouadhibou se sont neutralisés au Nigeria, score 1-1. Et puis, suite à leur match nul 0-0 au Mali contre Djoliba, les Guinéens d'Oroya devront également patienter, même s'ils conservent la tête du groupe C avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour et sur les Libyens d'Al Nasr qui se sont imposés de 1 face aux Sud-Africains de Bives Wits.
Dans le groupe B, le Hassania Agadir est presque qualifié.
Vainqueur 3-0 des Ivoiriens du FC San Pedro, les Marocains ont 6 points d'avance sur les Algériens de Paradou, classés 3e et battus 4-1 par les Nigériens d'Enimba. Dans le groupe B, le Darin Club Motéba Pembe s'est repris en battant 1-0 les Marocains de la Renaissance Berkane. Au classement, Motéba Pembe et Renaissance Berkane partagent la première place avec 7 points, un de plus que les Zambiens de Zanaco qui ont largement dominé les Béninois de Zaï 3-0. Les étudiants de Cotonou avec un seul point sont éliminés. Et puis, du basketball pour finir, la NBA, les résultats de la nuit.
New York et Miami, 124 à 121. Utah et Washington, 127 à 116. Brooklyn et Atlanta, 108 à 86. San Antonio et Toronto, 105 à 104. Memphis et Golden State, 122 à 102. Denver et LA Clippers, 114 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réunion aujourd'hui à Pau, en France, entre le président Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. À l'ordre du jour, entre autres sujets, la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste, ainsi que la présence militaire française dans la région. Eric Manirakidza a joint à Dakar l'analyste politique Ibrahim Akan.
Vous savez, il y a actuellement dans la région du Sahel, particulièrement au Mali, et un peu même au Burkina, si on en juge par les propos des membres du gouvernement, un sentiment très profond que la France n'aide pas à lutter contre les djihadistes, que la France est en train de dérouler son propre agenda. Cette conférence est convoquée par la France pour procéder à des clarifications. Je pense que la première clarification qu'il faudra faire à cette réunion, c'est quel est le rôle de la France dans cette lutte. Est-ce aider les pays à vraiment réduire, parce que je pense que éradiquer le terrorisme dans la région est quelque chose de très difficile à l'heure actuelle et ça prendra énormément de temps, mais aider les pays à mieux s'organiser et à mieux défendre leur territoire contre les attaques djihadistes. Ça, c'est la première chose. Aider les pays à surtout protéger leur intégrité territoriale, préserver leur intégrité territoriale, parce que dans le cadre du Mali, le sentiment qui se dégage dans la population est que la France fait tout pour que les Touaregs aient un territoire. Et ça, il faut dissiper ces malentendus. La troisième chose, à mon avis, c'est que si on veut qu'il y ait une forte coordination entre la France, les Nations Unies et les pays qui subissent aujourd'hui ces actes terroristes, il faudrait que la France aussi donne des gages pour cette coopération, montrer par exemple que la CEDEAO est un acteur important, que la coopération avec l'Algérie est sur la table et qu'enfin l'Union africaine, qui est quand même un acteur très important, soit aussi impliquée.
Ibrahim Akan, analyste politique, joint à Dakar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, un ancien partisan du président Denis Sassou Nguesso, appelle l'opposition à se mettre ensemble pour choisir un candidat unique aux élections de 2021. Comment cette idée a-t-elle été accueillie au sein même de l'opposition, qui ne s'est pas encore remise de ses divisions de la dernière présidentielle, de Brazzaville, Arsène Séverin.
Pour Jean-Jacques Serge Yombi Opango, 2021, c'est déjà maintenant. Il faut que les opposants parlent d'une seule voix et choisissent un candidat unique pour cette élection présidentielle. Et qu'est-ce qui fonde la foi du vice-président du RDD?
Dans la situation actuelle, aller aux élections, justement, si nous ne sommes pas un, si nous ne désignons pas un candidat, ça va être de l'aventure pure d'aller s'affronter à ce pouvoir qui a tout en main. Et ils ne changeront rien parce que eux, ils n'ont pas envie de changer les choses, ils veulent rester au pouvoir. Si nous loupons le coche cette fois-ci, ce pouvoir, ce système inique va rester au pouvoir plus de 100 ans. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on stoppe. Le peuple congolais qui est dans la misère, le peuple congolais qui, en fait, en a strictement marre de ce système, le peuple congolais qui veut le changement. C'est ça qui me donne de l'espoir. Et au moins, le peuple congolais, lui, ne nous trompe pas.
Dans le camp de l'opposition constitutionnelle, Armand Pourou de la Dynamique pour le développement du Congo réagit.
Nous disons ça peut être possible, hein, puisque nous sommes les hommes. Mais dès que nous analysons la vie politique congolaise, nous avons encore les questions de haine, de jalousie, où c'est un peu difficile qu'un homme supporte l'élévation de l'autre. Il faudrait qu'on travaille un peu ce niveau, l'humilité. Mais sinon que pour l'instant, nous sommes encore un peu hésitants.
En fait, les opposants congolais se sont déjà mis ensemble entre 2015 et 2016 à travers un fonds contre le référendum constitutionnel et la réélection de Denis Sassou Nguesso. Mais là, l'échec a été retentissant. Paul-Marie Mpouele était alors coordonnateur de ce front, le FROCAD.
Il y avait trop d'ego, il n'y avait pas un projet commun, il y avait trop de suspicions. Et chacun voulait en réalité se la jouer solo pour être le partenaire privilégié du pouvoir. Et je crois que c'est ça qui n'a pas marché. En tout cas, ça, je fais une critique en tant que coordonnateur.
Analysant les possibilités de l'opposition congolaise de se mettre d'accord d'ici 2021, l'universitaire Vivien Manangu reste pessimiste.
S'oppose-t-il au président Sassou? Ou s'oppose-t-il simplement au fait que le RDD aujourd'hui ne soit pas dans une situation de gouvernance? Et donc, nous savons très bien que l'opposition ne se réunira pas, parce que l'opposition n'a pas de fil conducteur. Pour que l'opposition se réunisse, il faut un fil conducteur qui peut être idéologique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. Donc, l'opposition ne se réunira pas tant que ça sera simplement des appétits personnels. Donc, voilà, l'appel de Monsieur Yombi, ce sera comme un coup de pied dans l'eau, évidemment.
À l'instar de Jean-Jacques Yombi Opango, qui réclame une réelle gouvernance électorale avant le prochain scrutin présidentiel, Pascal Tsatsimabiala, le chef de file de l'opposition, avait même demandé que le président Sassou Nguesso reste au pouvoir au-delà de 2021, le terme de son premier mandat. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Tchad, les partenaires sociaux et le gouvernement ont paraphé un accord ayant abouti à la suspension de la grève dans le secteur public, grève qui, la semaine dernière, avait paralysé pendant 2 jours l'administration publique. Elle avait été déclenchée, cette grève, par les employés pour revendiquer leurs salaires, primes et indemnités coupées depuis 2016. Quelques réactions de travailleurs recueillies par notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Dans cet accord dont la VOA Afrique a eu copie, le gouvernement s'engage à payer 35% des augmentations générales spécifiques AGS en 2020, à rétablir 35% des primes et indemnités en 2020 et 15% en 2021, à rétablir le gel des effets financiers des avancements et reclassements en 2020. En ce qui concerne le paiement des frais de transport, voici la position du gouvernement. Oumar Yahya Hissen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Les économies qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et de l'audit des diplômes seront affectés au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le gouvernement de façon graduelle. Dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut Comité Technique Tripartite HCTT mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable dans un délai n'excédant pas 45 jours.
Nous avons atteint nos objectifs. Nos revendications sont satisfaites.
Barka Michel est le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative.
Nous sommes prudents parce que nous avons déjà signé des papiers qui sont restés lettres mortes. Le gouvernement nous demande d'aller vers la signature d'un pacte social. Ce pacte social est un document important pour nous. Dedans, nous avons un certain nombre de choses qui doivent engager le gouvernement, parce que si nous nous engageons à maintenir la paix sociale sans grève, il faut qu'il y ait la contrepartie, non?
Quelques responsables de la cellule départementale du syndicat des anciens du Tchad se prononcent sur cet accord.
Si la plateforme a appelé à la reprise, c'est pour que les élèves partent à l'école. Mais si le gouvernement n'est pas conscient, c'est lui qui tirera les conséquences de ce qui adviendra. Depuis 3 ans, c'est la merde. On ne peut pas continuer comme ça. Nous verrons d'ici 2-3 jours.
Si le gouvernement tient bien parole, ça sera mieux. Mais s'il ne tient pas parole, je pense que nous, on ne se laisse pas faire. Et on demande aux militants d'être vigilants. Les frais de transport, on a dit en 2020, des gens qui ont 2 mois de frais de transport, d'autres 1 mois. 13 mois, cela veut dire que chaque 3 ans, le fonctionnaire a 1 mois de son salaire. Des gens qui ont fait 6 ans, mais ils n'ont pas ces frais de transport.
Si le gouvernement et les responsables syndicaux ont trouvé un compromis qui a permis de suspendre la grève dans le secteur public, les tenanciers de bars et alimentation durcissent leur position. Ceux de N'Djamena observent une grève de 2 jours à partir de ce lundi en fermant bars et alimentation. Par contre, ceux de Mundu, capitale économique du Tchad, décident de fermer boutique toute la semaine pour protester contre l'augmentation des prix des produits des brasseries du Tchad. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Fête du Vaudou à Ouagadougou, la communauté béninoise vivant au Burkina Faso s'est retrouvée hier pour célébrer la fête du Vaudou à Ouagadougou. Danse des masques en béto et démonstration de la puissance de cette pratique ancestrale, tous les ingrédients étaient réunis pour épater le public, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
L'ambiance était festive hier dimanche dans le quartier d'Assasco de Ouagadougou. La communauté béninoise vivant au Burkina Faso célébrait la fête du Vaudou. Réunis au sein de l'Union des Béninois au Burkina et du Conseil des Béninois au Burkina, les organisateurs ont fait venir spécialement un maître Vaudou et des masques pour des démonstrations. Le Vaudou est différent de la sorcellerie, selon le président du Conseil des Béninois au Burkina, Gezo Clovis Babadiou.
Le Vaudou, c'est une divinité ancestrale. Le Vaudou, vous l'appelez quand vous croyez en lui, vous l'appelez et il vient. Vous voyez les masques que nous avons fait venir. On les appelle et ils viennent. C'est un esprit. Et c'est comme quelqu'un qui prend sa Bible et qui prie. C'est là une question de foi. Quand vous avez la foi, vous avez les miracles. C'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. C'est deux choses différentes.
Cette fête est célébrée chaque 10 janvier au Bénin. Sa commémoration au Burkina vise à permettre à la communauté béninoise de se sentir comme chez elle. Monique Akotosu, béninoise vivant au Burkina depuis 25 ans.
La fête de Vaudou, c'est une fête qui se passe chez nous chaque 10 janvier. Ce soir au Burkina, la fête est très belle, ça se passe bien. Ça se passe comme nous sommes au Bénin. On n'a pas peur de ça. C'est notre tradition. On est né dans ça. Bon, on est venu trouver ça. Donc pourquoi avoir peur de ça? Vaudou là, ça peut apporter bonheur à tout le monde. Protection de ma famille, protection de moi-même. Vaudou ne fait pas du mal. On ne peut pas laisser, parce que je pars à l'église, je vais négliger nos ancêtres.
Pour les organisateurs, il faut rester collé à la culture de son pays d'origine, même lorsqu'on vit à l'étranger. Gezo Clovis Babadiou, président du Conseil des Béninois au Burkina.
Donc c'est pour valoriser le côté culturel de cet événement-là que voilà, et nous nous retrouvons les mains dans les mains. Et puis voilà, et nous soutenons et notre culture.
Plusieurs démonstrations de la puissance mystique du Vaudou ont été présentées. Le grand maître Dan Mali, chef d'orchestre de cette mise en scène, a profité pour vendre des produits traditionnels contre les attaques de tout ordre. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif À votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Cambodge, lumière.
Outre-mer. Brandon Midako, Gilles Basket à Paris, ingénieur à tout à Lungwa. Junior Motocoa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.